Toujours au cœur de l'actualité, Patrice,
avec les tireurs sénégalais. Et voilà, ce sont des soldats dont on vient enfin de reconnaître le droit d'être traités comme tous les anciens combattants français, les tirailleurs sénégalais. Qui sait si l'inconnu qui dort sous l'arche immense n'est pas cet étranger devenu fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Pascal Bonetti. D'histoire. On les appelait des indigènes et pendant plus d'un siècle, ils sont venus du fond de l'Afrique pour se battre dans tous les conflits où s'est joué le destin de la France. Pendant les deux guerres mondiales et même pour la conquête et la défense d'un immense empire où on les a fait participer à leur propre colonisation. Et puis un jour, ceux qu'on appelait les tirailleurs sénégalais ont disparu, en même temps que les colonies. Et dans leur pays devenu indépendant, on les a oubliés. Mais les survivants de leur histoire se souviennent encore de l'époque où la France avait fait appel à eux, au pire moment de son histoire, lorsqu'en 1939, elle les avait fait venir de tous les coins d'Afrique pour se battre très loin de chez eux, et pour le drapeau d'un pays que la plupart d'entre eux ne connaissaient pas.
Allez confiant vers votre devoir, soldats de France, soldats d'un empire de 100 millions d'habitants. De toute l'Afrique noire en particulier, et même des anciens territoires allemands du Togo et du Cameroun, c'est par dizaines de milliers que les indigènes se sont ralliés autour du drapeau tricolore pour le salut de la patrie, dans l'élan d'une prodigieuse mais véritable croisade. Les peuples de race noire savent que notre pays, après avoir largement amélioré leurs conditions, ne connaît pas plus de distinctions religieuses qu'ethniques. Ils savent qu'ils étaient directement menacés par les revendications coloniales allemandes et par une doctrine fondée sur un concept de supériorité raciale.
Éric Deraud, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'écrire avec Antoine Champeau un très beau livre publié chez Talendier, La Force Noire, l'histoire de ces tirailleurs sénégalais qui font partie de toutes ces troupes indigènes, comme on disait, auxquelles on vient enfin aujourd'hui de donner les mêmes droits qu'aux anciens combattants français. Mais de toutes les troupes indigènes, comme on disait, les tirailleurs sénégalais étaient les plus anciennes, en fait. En tout cas, les Sénégalais recrutés pour l'armée française.
Absolument. C'est dès la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle que la France établissant des comptoirs commerciaux le long des côtes africaines, en particulier au Sénégal, se sont aperçus que la mortalité européenne était telle qu'il fallait absolument recruter des hommes, non seulement pour manœuvrer les bateaux et les laptops, mais aussi pour servir d'interprète, et puis petit à petit, pour entrer à l'intérieur des terres. Donc, dès le 17e, on a des Africains au service de la France.
Alors, c'était les laptops, vous venez de le dire, il y a eu aussi des spahis sénégalais, et puis alors, en 1857, pardon, le corps des tirailleurs sénégalais, c'est Federbe, c'est un gouverneur, c'est le gouverneur français au Sénégal qui crée, donc en 1857, je répète.
Absolument, l'empereur Napoléon III signe à Plombières un décret en juillet 1857 qui institue le corps des tireurs sénégalais. C'est intéressant parce que Federbe a donc est installé à Saint-Louis, dans la boucle à l'estuaire du fleuve Sénégal. Et l'idée à l'époque qui préside à la création des tireurs, c'est toujours le manque cruel d'hommes, de soldats pour protéger ces comptoirs, mais aussi pour commencer à explorer vers l'intérieur, et aussi pour un autre point qui est extrêmement important, c'est que il y a eu les lois qui ont aboli la traite négrière et l'esclavage, et par conséquent il y a des milliers d'hommes qui sont sans statut, qui ont été déportés de leur terre parfois depuis plusieurs générations, et à qui il faut bien racheter. Et Federbe a l'idée en partie de les libérer en échange d'un engagement dans cette troupe qui va s'appeler désormais les tirailleurs sénégalais et qui gardera ce titre générique de sénégalais, bien que très vite, à peine 10 ans plus tard, on recrute, en même temps que la conquête s'élargit, on recrute à travers tous les territoires de l'Afrique noire.
Et tous les territoires, effectivement, que l'on va coloniser, conquérir, avec le secours de ces tirailleurs sénégalais qui sont aussi gabonais, dabodaoméens, etc. Et qui, donc, à la fin du 19e siècle, participent à leur propre colonisation.
La ligne frontière établie avec les Anglais depuis les incidents de Fashoda n'est pas encore stabilisé. Certains villages de notre frontière du sud-est n'ont pas accepté de se soumettre à la France et se soulèvent.
Où sont les hommes que l'on m'avait promis ?
Vous les retrouverez au fort de Birni.
Qui les commande ?
Deux sergents indigènes, des hommes en qui j'ai toute confiance.
Madame T.
Capitaine Chanoine, sergent indigène Boubacar, à vos ordres, mon colonel.
Messieurs, la mission de pacification à laquelle vous avez brillamment participé vient de commencer.
Nous avons besoin d'hommes. Eh bien, voici les premiers. Les premiers tirailleurs irréguliers de la colonne Boulet Chanoine.
À la colonne, au capitaine Boulet.
Vive le capitaine Boulet.
Plus fort.
Vive le capitaine Boulet. Y'a été un bat.
Et c'était l'extrait d'un film de Serge Moati, Capitaine des Ténèbres, l'histoire d'une expédition dramatique qui s'est déroulée à la fin du 19e siècle au Niger. Nous en avons déjà parlé dans cette émission, mais il y a eu beaucoup d'autres missions, beaucoup moins dramatiques. Il y a eu Brazza, qui a utilisé aussi des tirailleurs sénégalais pour la conquête du Congo. Il y a eu la mission Marchand vers le Soudan, avec un conflit avec l'Angleterre. Mais c'est extraordinaire quand même de penser que ce sont des Africains qui ont participé, ces tirailleurs, à la colonisation de l'Afrique, puisque, vous le rappelez, Éric Deraud, c'était 12 000 tirailleurs pour 6 millions de kilomètres carrés de territoire, c'est-à-dire plus de 10 fois la France.
Absolument, c'est-à-dire qu'il y avait une chose qui était toujours constante, c'était la faiblesse des effectifs européens. Par exemple, la mission dont vous parlez, la mission Marchand, qui traverse l'Afrique d'ouest en est, et qui se termine par l'affaire de Fashoda, c'est 15 blancs et 150 tireurs sénégalais et environ 15 000 porteurs africains. Donc il est clair que la conquête de l'Afrique n'aurait jamais pu se faire sans l'aide de ces troupes africaines. Mais évidemment, avec un bémol, c'est que d'une part, beaucoup d'Africains étaient engagés dans des opérations territoriales hors de leur propre territoire, que par ailleurs, il y avait des promesses qui étaient faites de radia. On est encore à une époque totalement anarchique en termes d'organisation, que par ailleurs, beaucoup...
C'est-à-dire qu'en fait, ils se payent avec
les troupeaux, avec les femmes, etc. Il y a aussi le fait que il y a des bandes, je dirais, démobilisées, qu'on appelle les SOFA, qui appartiennent à différents sultans locaux que la France a vaincus, et donc ces hommes sont pratiquement sans emploi, et on les recrute d'autant plus facilement. Et puis, il y a aussi, dans certains cas, des hommes qu'on n'hésite pas à recruter
de force,
ou en tout cas recruter sans qu'ils aient réellement conscience du sort qui les attend. Donc, il y a un petit peu tous les cas de figure dans ces recrutements de la conquête.
Mais toujours avec un encadrement blanc. Hein. Est-ce qu'ils pouvaient accéder à des grades importants au début?
Alors,
en tout cas,
non. Il est clair que l'encadrement toujours qui celui des troupes de marine, puisque les tireurs sénégalais appartiennent à l'infanterie de marine, qui deviendra infanterie coloniale en 1900. Les tirailleurs sénégalais accèdent au petit grade, au grade de caporaux, enfin au petit grade de sergent, sergent-chef. En revanche, on va voir assez vite le pouvoir politique colonial pousser vers des grades, mais toujours des grades subalternes, de sous-lieutenant ou de lieutenant, les fils de chef. Enfin, c'est aussi une façon d'essayer de créer une hiérarchie ou une société coloniale. Faut pas oublier que l'armée de la Troisième République est aussi l'école de la République. Et donc, il faut pas non plus oublier que la colonisation, elle n'est pas vécue à l'époque comme une œuvre d'agression, elle est vécue comme une œuvre civilisatrice à l'époque. Et donc, l'armée, en recrutant ses tirailleurs et en formant des petits cadres, eh bien, est parfaitement dans ce rôle que lui a assigné la République.
Alors, si votre livre s'appelle La Force Noire, c'est à cause d'un général, ancien capitaine de la mission Marchand, qui s'appelait le général Mangin, et c'est lui qui a eu l'idée, pour la première fois, d'utiliser ces tirailleurs sénégalais, et dans l'ensemble des forces noires, plus seulement en Afrique, mais en Europe, avec un danger qui se précisait, bien sûr, c'était le danger allemand. La Force Noire, ça voulait dire quoi dans l'esprit de Mangin?
Mangin est un très vieil Africain. C'est quelqu'un qui a fait, donc, vous l'avez dit, la colonne Marchand. Il a participé à des tas d'opérations. Et en 1910, il écrit un livre qui s'appelle La Force Noire, qui reprend un peu toutes les théories qui sont dans les esprits coloniaux depuis le début du siècle. L'idée est la suivante. La France a un déficit démographique énorme face à l'Allemagne. énorme. Par conséquent, il va falloir des hommes sur les frontières du Nord-Est. Or, et c'est ça la véritable idée de Mangin, le Maghreb mobilise beaucoup de troupes de souveraineté, parce que la France se méfie de l'islam, etc. Donc on y mobilise les gens étrangers, les chasseurs d'Afrique, les Zouaves, des régiments d'élite. Et par conséquent, l'idée de Mangin, c'est de faire monter en tiroir les troupes, c'est-à-dire d'occuper les tirailleurs nord-africains et les troupes françaises de souveraineté d'Afrique du Nord, de les faire monter sur les frontières du Nord-Est et de faire monter les troupes africaines, les troupes sénégalaises, occuper le Maghreb. Et l'expérience va lui donner l'occasion d'être menée au Maroc. En 1907 éclate la campagne du Maroc et en 1910 il arrive à engager les tirailleurs qui se comportent exactement comme on l'attendait, c'est-à-dire extrêmement bien.
Alors ces tirailleurs, on va aussi les retrouver en 1914, dès le début de la Première Guerre mondiale et sur tous les fronts, comme le rappelaient d'ailleurs ces anciens combattants africains à la radio en 1957 pour le 100e anniversaire de la création des tirailleurs sénégalais.
Voici donc, autour de notre micro, quelques-uns des 60 anciens combattants africains. Boubous et turbans voisinent avec les vestons européens, mais toutes les poitrines ruissellent littéralement de décoration. Quels sont, autour de nous, les présents?
Ici Ning François, territoire du Sénégal.
Ici Eladi Ismaël Diouf, Kaolack.
Ici Bajorge, la Côte d'Ivoire.
Ici Diaz Daniel, Sénégal.
Ici Krissi Traoré, Alto-Alta.
Vous étiez, vous, à Verdun?
J'étais à Verdun, sur les ordres du général Pétain. C'est là qu'on avait tamponné très fort. Ils nous bombardaient pendant 24 heures assez vite. Et la voix que les toujours les tirailleurs sénégalais s'agissent.
Et les tirailleurs sénégalais tenaient leur position toujours?
Ils tenaient leur position toujours.
C'est ce moment-là. Le tirailleur, on lui dit, tu te mets là et puis tu te défends.
Vous étiez gradé à ce moment-là?
J'étais caporal.
Caporal.
Moga pepe, moga pepe, mo yinga kanga kwe. Moga pepe, moga pepe, mo yinga kanga kwe. Makelepa, 1, 2, on sait combattant, on a soukere. Makelepa, et 1, 2, on sait combattant, on a soukere.
Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Kamala Rouaï. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Peter mon ami. J'ai tué Français, j'ai tué Allemand, j'ai tué Anglais. Moi j'ai tué Tchécoslovaque qui m'a quitté pas. Et 1, 2, ancien combattant, on a souqué, m'a quitté pas. Et 1, 2.
La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. La guerre mondiale, ce n'est pas beau.
Zao, l'ancien combattant, ces anciens combattants sénégalais notamment, qui ont participé à la Première Guerre mondiale dans des conditions épouvantables. On les retrouve, vous le rappelez, Éric Dereau, dans votre livre, non seulement à Verdun, on l'a entendu, mais aussi aux Dardanelles. Ça a été très dur pour eux, parce que là, d'abord, ils débarquent dans un pays qu'ils ne connaissent pas, avec des moyens de guerre qu'ils ignorent. C'était une guerre épouvantable qu'on ne pratiquait pas en Afrique. Et ça a été extrêmement dur, ils ont eu des pertes énormes d'ailleurs.
Ça a été très dur, et surtout les conditions climatiques aussi, c'est-à-dire qu'on s'est très vite aperçu que l'idée de la force noire ne tenait pas, et que c'est pas ces Sénégalais qui changeraient le destin des armées. On n'y croyait pas tellement d'ailleurs, mais en tout cas il y avait la presse s'était emparée de cette mythologie, même si l'état-major n'y croyait pas, donc il y a eu énormément de cas d'affection pulmonaire, ce qui fait que très vite on a eu l'idée de retirer les tirailleurs du front pendant l'hiver et de les mettre dans les énormes camps du sud-est de Fréjus, qui s'appelait l'hivernage. Mais malgré ça, les tirailleurs ont été engagés sans arrêt, et ont eu des pertes très dures, comparables à celles des Français d'ailleurs. Il faut revenir sur le mythe de la chair à canon. Il est clair que quand on les a engagés, en particulier sur le front d'Ypres, dans la bataille de Dixmude, ça a été extrêmement dur, à la fois soumis aux tirs d'artillerie et aux conditions climatiques.
Et alors avec des révoltes qu'on essaye d'apaiser en envoyant auprès d'eux le seul député français, je crois, noir, africain, qui s'appelait Blaise Diagne, et alors qu'il leur dit, qu'il leur promet, il fait des promesses, en versant le même sang, vous gagnerez les mêmes droits.
C'est ça, alors là, on retrouve toujours, alors pendant toute la guerre, évidemment, la France manque cruellement d'hommes, et bien que on pense que les tirailleurs ne sont pas cette troupe de choc qu'on imagine, eh bien, on a besoin de ces hommes, et il y a des révoltes terribles, puisque l'Afrique, il y a certaines raisons, en particulier en Haute-Volta, qui se désertent tellement les jeunes hommes fuient de façon à échapper à la conscription. Et en 1918, on a l'idée de confier à Bias Diagne une mission de recrutement où on lui donne des moyens. On lui donne des moyens, on lui promet des pensions, on lui promet des moyens financiers pour convaincre. Et il tient effectivement ce discours et ça va marcher formidablement. Alors qu'on attendait 30 000 hommes, il va réussir à lever plus de 70 000 hommes. Mais ces promesses ne seront pas tenues au moment de la guerre.
Les mêmes droits, ça veut dire qu'ils sortiraient du statut de l'indigénat, parce que c'était le cas de tous. Aucun n'avait, je crois qu'il y a que 4 villes du Sénégal.
Il y a les 4 communes du Sénégal.
Qui d'ailleurs étaient citoyens français.
Alors, ils ne portaient pas la chéchia, ils portaient la tenue métropolitaine. Mmh. Sinon, tous les autres étaient soumis au statut de l'indigénat, c'est-à-dire qu'ils étaient sujets français et non pas citoyens français.
En tout cas, ils sont célébrés à la fin de la guerre à laquelle ils ont participé. Ils suscitent la curiosité, mais aussi le paternalisme qui va se manifester notamment à l'exposition coloniale de 1931.
Actuellement, à l'exposition coloniale, dans un pavillon qui se trouve dans le palais du Maroc, cette ligue fait tous les jours des cours d'abord pour les indigènes des souks tunisiens, algériens et marocains. Ensuite, pour les militaires du Soudan et du Sénégal.
Nous allons prendre la seconde leçon. Vous allez lire après moi. Ça c'est... Oh ! Bon, ça c'est... Ah ! Alors...
C'est un déjeuner.
Un goûter délicieux, banania.
Banania, banania.
Mmh, y'a bon.
Banania.
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 Y'a bon, banania.
Il y a bon Banania, c'était sans doute une des publicités les plus célèbres du XXe siècle, une des plus détestables aussi, parce que c'était vraiment, les tirailleurs sénégalais étaient sur les boîtes ou les affiches de cette marque de chocolat en poudre. C'était terrible ça, cette publicité, on l'imagine pas aujourd'hui.
C'est-à-dire que ce qui est terrible, c'est que c'est un stéréotype. Pendant la Grande Guerre, on a fabriqué énormément de cartes postales de propagande, et on a instrumentalisé l'image des Noirs de façon extraordinaire. On les a montrés en gaillard solide, costaud. Alors c'est pas par hasard si le fabricant de Banania s'est emparé de cette image-là pour en faire son logo. Mais de la même façon, on a donc enfermé définitivement les tirailleurs dans cette image de grand enfant costaud, souriant, toujours fidèle, et en même temps dans l'image d'un barbare qu'on jetait à la tête des Allemands. Et on va vite associer le tirailleur au coupe-coupe. Et là aussi, toute une propagande, mais qui est pas tellement dirigée par le gouvernement, qui est le fait de la presse, qui est fait des fabricants privés, va ériger le tirailleur en une sorte de grand sauvage.
Oui, mais on trouvait ça aussi, vous le rappelez, dans les manuels d'instruction militaire, notamment le français tel que le parlent les Sénégalais, je cite, « Ainsi, en montrant trois moutons qui pèsent, il ne faudra pas dire « ça y en a mouton », mais « ça y en a mouton trois ». Ou encore, le mauvais tirailleur désobéit, on le dira de la manière suivante, « tirailleur, il n'y en a pas bon, lui pas obéir ». Donc cette espèce de sabir, il était devenu courant.
Absolument. C'est-à-dire que très vite, on a imaginé, parce qu'il y avait des dizaines de langues différentes parlées par les tirailleurs, mais la plus importante était le bambara, était le groupe bambara. Et on a imaginé que, en allitérant certains mots du langage bambara, ça y a bon, ça y a pas bon, avec une argumentation extraordinairement tirée par les cheveux où il semblerait qu'il y ait un vocabulaire bambara qui ressemblait à ça, on a inventé ce langage du petit nègre, et les Africains l'appelaient le moyadi. Je trouve ça formidable. Ouais. Le terme, c'était moyadi.
Alors disons que c'est plus du paternalisme que du racisme, dont faisaient preuve ce racisme les Allemands à l'endroit des tirailleurs sénégalais, qui appelaient ça d'ailleurs, dit Schwarze Schande, la honte noire. Et ça, dès les années 10.
1900, alors, si vous voulez, dès déjà 1870, dès la guerre contre la Prusse, les Prussiens avaient reproché à la France impériale d'utiliser des sauvages, à l'époque des tirailleurs algériens. En 14, à nouveau, les Allemands vont dire aux Français, vous ne jouez pas le jeu, vous faites une guerre avec des sauvages. Et c'est pendant toute la guerre un thème important. Et en 1919, alors que la France est en train d'essayer d'imposer des conditions extrêmement dures à l'Allemagne au traité de Versailles, les Allemands vont avoir cette idée brillante, entre guillemets, d'imputer aux forces noires, parce que Mangin commande des troupes d'occupation de la Rhénanie, et il y a apporté des Africains, et donc les Allemands vont inventer ce fantasme d'Africains violeurs d'Allemandes, de façon à, je dirais, à décrédibiliser les exigences françaises du traité traité de Versailles, et ça va marcher. Hélas, les Français, même s'ils n'y croient pas, vont retirer leurs troupes.
Et Hitler va parler d'eux, d'ailleurs, dans Mein Kampf, vous le citez, la contamination provoquée par l'afflux de sang nègre sur le Rhin, au cœur de l'Europe, répond aussi bien à la soif de vengeance sadique et perverse de cet ennemi héréditaire de notre peuple, la France, qu'au froid calcul du juif qui y voit le moyen de commencer le métissage du continent européen. Ça, c'était Hitler dans Mein Kampf, donc, et alors, on ne s'étonne pas en lisant cela, évidemment, de ce qui va se passer en 1940, quand on verra au moment de la débâcle française dans les actualités allemandes, les tirailleurs sénégalais et français prisonniers présentés comme des sauvages, ou encore censés accusés de crimes imaginaires lorsqu'en pleine débâcle, les Allemands essayaient en vain de le faire admettre par un préfet de l'Eure-et-Loire qui s'appelait Jean Moulin.
Que voulez-vous ?
Il faut signer un protocole.
Que dit ce protocole ?
Dans le village à côté, les Français ont été massacrés, violés, tués. Des femmes et des enfants.
C'est une honte pour la France.
Qui est responsable ?
Les nègres de l'armée française.
Qu'est-ce qui prouve que c'est eux ? De toute façon, les tirailleurs sénégalais sont des soldats comme les autres. Comme les autres Français.
Nous avons la preuve que vos tirailleurs sénégalais ont commis ces crimes.
Der Stoßtrupp kämpft eine vorgeschobene französische Stellung nieder und bringt eine größere Anzahl von Gefangenen mit.
Nos soldats ont anéanti une position française et fait de nombreux prisonniers noirs. Voici les peuples subalternes des plutocrates occidentaux. Ils étaient chargés par les politiciens de Londres et de Paris de conduire l'Europe à la guerre. Ils devaient protéger la culture et la civilisation européenne.
Et c'était les actualités allemandes en 1940, où au moment où la France était envahie, justement, et que les tirailleurs sénégalais étaient traités dans les actualités que l'on vient d'entendre, ou encore dans cet épisode avec Jean Moulin, où on les accuse de crimes imaginaires. Et Jean Moulin, d'ailleurs, a voulu se suicider pour ne pas signer le papier par le, qui dirait, qui affirmerait la même chose. Ça, c'est terrible. Ils sont vraiment traités comme des sous-hommes, pas du tout comme des soldats, non, comme les autres.
Oui, c'était pire que ça. Il y a eu des massacres, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des exécutions sommaires de centaines de tirailleurs, à Chasselas en particulier, derrière Lyon, où une compagnie entière de Sénégalais a été massacrée, et on a même des témoignages de chars allemands qui ont roulé sur les corps, à Rennes, en Picardie, dans l'est de la France. Il y a des officiers sénégalais, comme le capitaine Choréré, qui a refusé de quitter ses hommes, étaient fusillés. Il y a aussi des officiers français qui ont refusé. Les Allemands leur ont dit, ça ne vous concerne pas, mettez-vous sur le côté. Il y a un colonel, un chef de corps, un chef de bataillon qui sont restés avec leurs hommes qui ont été fusillés. Donc, on ne sait pas très bien combien il y en a, mais on peut estimer à plusieurs centaines, en tout cas peut-être plus d'un millier, les tirailleurs sénégalais exécutés sommairement par les Allemands parce qu'ils étaient noirs.
Et quand ils étaient faits prisonniers, les Allemands ne voulaient pas les mettre comme les autres prisonniers français dans des camps en Allemagne. Les stalags pour les prisonniers noirs étaient en France. Hein. Alors, ceux qui en revanche y ont échappé, on les va retrouver sur tous les fronts, dans l'armée française d'Afrique, dans les forces françaises libres, dans les maquis même, ils vont participer, 160 000 hommes environ de ces tirailleurs ont participé, je crois, à la Deuxième Guerre mondiale, Éric Deroux.
À tous les combats de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des tirailleurs à Bir Hakeim, qui est le premier combat qui va redresser le glaive de la France libre. On va les trouver dans la première armée, on va les trouver en Italie, pendant la campagne italienne, on va les trouver à la libération de l'île d'Elbe, où ils ont eu une grosse perte, on va les trouver au débarquement de Provence, dans la campagne des Vosges, jusque la campagne Vosges, la libération de la poche de Royan aussi, c'est aussi un bataillon de marge de tirailleurs.
Ce qui est curieux, c'est qu'on les a pas utilisés jusqu'au bout de la guerre, car ils sont démobilisés dès 1944.
Dans l'hiver 44.
Et pourquoi? Oui.
Alors, il y a eu plusieurs raisons, ça s'est appelé le blanchiment. L'une était que l'état-major pensait que les Africains auraient du mal à tenir dans les conditions climatiques. Une raison mineure. L'autre était aussi que je crois qu'on voulait que les jeunes Français prennent réellement part aux opérations de la guerre et qu'on n'ait pas l'impression justement que l'Allemagne soit libérée uniquement par les troupes indigènes.
Donc ils retournent chez eux en 1944.
À Marseille, le général Ingold visite les combattants sénégalais qui vont regagner par avion leur terre natale. Un viatique sous forme de colis individuel est offert par la générale à chacun des rapatriés. La France n'oublie pas la part prépondérante qu'ont pris ses soldats d'élite aux campagnes décisives. En quelques heures, le Dakota va ramener au pays ces hommes dont la plupart n'ont pas cessé de combattre pendant 5 ans. On les a vus partout où le communiqué enregistrait des victoires. On les a vus aussi stoïques sous le froid que sous le feu. Ils ont bien mérité de revoir le soleil de Dakar. Amadou Ba, démobilisé, va revoir son village. C'est Diongone, dans le secteur de Kaolack. Le village est en effervescence. C'est un véritable événement que le retour du guerrier à Madouba.
Là, en réalité, le retour n'a pas été aussi joyeux que le dit cette archive, Éric Dereau, hein. Les soldats sont en fait mécontents parce que on n'a pas réglé leurs soldes, leurs indemnités.
Oui, les pensions.
Il y a une tragédie qui s'est produite.
Et au camp de tireurs, qui est un énorme camp à l'arrière de Dakar où ils sont groupés, un certain nombre de ces tirailleurs, anciens prisonniers depuis 40, ont été trimballés d'un camp à un autre. On leur a promis des réparations financières différentes selon les camps. Ils réclament, ils refusent. Alors on leur dit, rentrez dans vos villages respectifs, on vous paiera à ce moment-là. Il faut oublier que l'administration qui est restée sur place est toujours celle, je dirais, d'avant, pas celle de la France combattante. Et donc les tirailleurs refusent de rentrer dans leur village. La troupe est appelée, le camp est encerclé, des coups de feu sont tirés, il y aura 35 morts.
35 morts. C'est pas les Allemands, c'est la police française, des forces de l'ordre françaises.
C'est les forces de l'ordre françaises, parmi lesquelles il y a des tirailleurs d'ailleurs, parce que l'ordre est exercé par des tirailleurs.
C'est effrayant. Et c'est le début d'une injustice qui a duré comme ça une soixantaine d'années, parce que alors qu'on va encore les utiliser dans des guerres comme la guerre de
Indochine,
il y aura constamment un écart entre les pensions qu'on leur donne et celles des anciens combattants français auprès desquels ils se sont battus dans toutes les guerres. Comment est-ce qu'on peut justifier ceci? Alors, si c'est justifiable, comment peut-on l'expliquer?
Ça n'est pas justifiable. Alors, l'explication technique, la première, c'est qu'au moment des indépendances, l'État français considérait que ces hommes n'étant plus français, ils n'avaient plus à bénéficier des avantages des lois françaises. Et par conséquent, leurs pensions et retraites ne seraient plus indexées au coût de la vie. C'est ce qu'on a appelé la cristallisation. Nous nous sommes battus, d'ailleurs, avec la Fédération des Anciens des Troupes de Marine d'Outre-mer. Il faut bien voir que les anciens combattants et l'armée est toujours restée assez fraternelle au nom de cette fraternité d'armes qui est tellement importante. De façon à exiger la parité. Le sang, la balle ne fait pas de différence entre le blanc et le noir, disaient les tirailleurs. Et donc, de façon à ce qu'il y ait une parité pour les récompenser. Et à notre immense satisfaction, je crois qu'aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre vient de dire que tout allait être fait de façon à ce qu'on
retrouve... Non seulement en revalorisation, mais au niveau des anciens combattants français.
Et au taux français. Donc, je crois que c'est une grande victoire. J'en suis très, très heureux et très fier.
On dit beaucoup aussi que c'est le film qui sort en ce moment dans les salles, qui a joué un grand rôle, Indigène.
Je crois que le film a joué un grand rôle. C'est important parce que on s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui des jeunes issus de cette histoire-là, pour lequel il faut que ce soit une histoire commune et apaisée, et non pas une source de guerre civile. Et je crois que le film joue aussi ce rôle-là, et j'espère, avec notre album La Force Noire, avoir contribué justement à ramener des images aussi, parce qu'un de nos buts, un de nos objectifs, c'était souvent quand on est en Afrique, les Africains disent « on n'a pas d'archives, on n'a pas d'images, on n'a pas d'histoire ». Eh bien, nous voulions, à travers cet album, eh bien, leur redonner une petite partie de cette histoire commune.
La Force Noire, gloire et infortune d'une légende coloniale. Aux éditions Talendier, un livre que vous avez écrit, Éric Dereau, avec Antoine Champeau, alors enrichi, c'est vrai, d'une magnifique iconographie. Vous êtes également l'auteur de L'illusion coloniale, également édité chez Talendier. Pour en savoir plus, je recommande la lecture du dossier que la revue Historia consacre aux soldats d'Afrique, et puis le film Indigène, bien sûr, de Rachid Bouchareb, qui sort aujourd'hui sur les écrans et qui est accompagné de la sortie du livre Indigène, publié aux éditions Perrin. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Capitaine des Ténèbres de Serge Moati, diffusé sur Arte en avril dernier, ainsi que du film Jean Moulin d'Yves Boisset, un DVD aux éditions France Télévisions. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire avec la technique Pascal Baldassari, Loïc Frapsos, documentation et archives sonores Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Catherine Louis, une réalisation de Anne Kobilac.